VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide avec vous. Bienvenue à l'écoute du Monde aujourd'hui en ce jeudi 17 septembre 2020. Une émission préenregistrée en télétravail en raison de la maladie Covid-19. À la une de l'actualité ce soir, présidentielle ivoirienne. Sa candidature a été rejetée, mais l'ex-chef rebelle et ancien premier ministre Guillaume Soro dit se maintenir dans la course de manière irrévocable et tire à boulet rouge sur Alassane Ouattara. Au Tchad, un colonel de l'armée extirpé par des membres de sa famille d'un tribunal de N'Djamena a l'énoncé du verdict le condamnant à 5 ans de prison ferme. En Ouganda, vaste chasse à l'homme pour retrouver 200 prisonniers qui se sont échappés en emportant des armes. La visite d'un haut dirigeant américain à Taïwan provoque la colère de Pékin qui accuse Washington d'encourager ainsi l'indépendance de l'île. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économie et sport à venir dans environ 10 minutes. L'ex-chef rebelle et ancien premier ministre ivoirien Guillaume Soro, dont la candidature à la présidentielle a été rejetée par le Conseil constitutionnel, affirme qu'il se maintient dans la course de manière irrévocable et appelle à l'opposition à s'unir pour des élections transparentes. Les détails avec Nani Talani.
Guillaume Soro a affirmé depuis Paris où il vit en exil que sa candidature est ferme, irréductible et irrévocable. Lors d'une conférence de presse, il a appelé l'opposition ivoirienne, dont les ex-présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, à s'unir et saisir la CEDEAO en vue d'obtenir des élections transparentes et pour stopper Alassane Ouattara dans sa folle aventure. L'ancien Premier ministre estime que maintenir l'élection du 31 octobre n'a aucun sens. « Je n'irai pas aux élections tant que Ouattara est candidat. Ce serait valider la forfaiture », a martelé Guillaume Soro, qui a promis de rentrer dans son pays sans fournir de date. Sa candidature a été jugée irrecevable en raison d'une condamnation par la justice ivoirienne à 20 ans de prison pour détournement de deniers publics. Mardi, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé à la Côte d'Ivoire de permettre à Guillaume Soro de se présenter. Les autorités ivoiriennes ont déjà rompu avec cette juridiction, l'accusant d'ingérence intolérable.
Au Tchad, Abdoulaye Amat, colonel de l'armée, condamné à 5 ans de prison ferme, a été extirpé du box des accusés ce matin au palais de justice de N'Djamena pour une destination inconnue. Il a été condamné pour avoir tiré à bout portant sur des jeunes en juillet dernier, faisant un mort. Une situation que dénoncent les défenseurs des droits de l'homme. Le point avec André Kodmadjingar, notre correspondant à N'Djamena.
Placé sous mandat de dépôt pour son implication présumée dans l'incident qui avait eu lieu en mi-juillet dernier, l'affaire a été jugée le 10 septembre et mise en délibéré ce jeudi matin. À l'écoute du verdict, le condamnant à 5 ans de prison, ses parents, surtout les femmes qui avaient dissimulé des armes de guerre sous leur voile, se sont infiltrées dans la salle. Elles ont tenu le personnel judiciaire et le public au respect pour l'extirper du box le prévenu vers une destination inconnue. Le juge a été outragé parce qu'il a été même insulté par un des parents du colonel qui a quitté le palais de justice en héros sous les cris de ses femmes. Réaction du président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, Max Loalgar.
Il faudrait que ceux-là soient poursuivis pour leur audace, pour atteinte à l'autorité de l'État et pour outrage au magistrat. C'est inadmissible. Si cela n'est pas fait, cela configurerait la justice à double vitesse que nous dénonçons toujours et établirait à la face du monde que la nation tchadienne est prise en otage par un groupe d'individus sans foi ni loi.
Vive réaction aussi de l'opposant Saleh Kebzabo qui parle d'une scène digne d'un film américain de Far West. Votre liberté dépend du calibre de votre revolver. Fin de citation. André Kodmadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
La situation des droits de l'homme ne s'améliore pas au Burundi malgré un changement à la tête de l'État. C'est ce que conclut la commission d'enquête de l'ONU sur ce pays plongé dans une grave crise politique qui a fait au moins 1200 morts. Les espoirs d'une amélioration après la disparition du président Pierre Nkurunziza se sont évaporés depuis l'élection en juin dernier d'Evariste Ndayishimiye à la présidence, note la commission dans un communiqué. Jusqu'à présent, nous n'avons vu que très peu de changements positifs depuis que le président Ndayishimiye est entré en fonction, souligne le président de la commission, Doudou Diène.
Un employé congolais de l'ONG britannique World Vision a été tué hier dans une embuscade tendue par des hommes armés à Lubero, au nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. L'employé revenait en convoi d'une mission dans le territoire de Lubero. Un autre employé a été gravement blessé d'après l'ONG qui a dénoncé une attaque contre son personnel et les communautés les plus vulnérables qu'il servait. Une vaste chasse à l'homme était en cours aujourd'hui dans le nord-est de l'Ouganda pour appréhender quelques 200 prisonniers qui se sont fait la belle hier en emportant avec eux des armes. Yakuba Ouedraogo.
Les prisonniers sont parvenus à prendre le dessus sur leur gardien dans la prison de Moroto à environ 460 km de Kampala. Ils se sont enfuis dans les montagnes alentours, a expliqué Johnson Biabashaija, directeur des services pénitentiaires. Trois prisonniers et un soldat ont été tués dans une fusillade entre prisonniers armés et gardes de sécurité, a précisé le porte-parole de l'administration pénitentiaire, Frank Bain. Un premier prisonnier a été tué pendant l'évasion et un soldat tué dans l'opération chasse à l'homme. Ce jeudi, deux autres prisonniers ont été tués. Plus de 200 prisonniers sont toujours en cavale dans les contreforts du mont Moroto. Les forces de sécurité y mènent des recherches, appuyées par des hélicoptères, selon M. Biabashaija. Abandonnant leur tenue jaune de prisonniers pour éviter d'être repérés, certains évadés se déplacent à moitié nus dans les montagnes, a précisé M. Bain. Parmi les fugitifs, des prisonniers considérés comme dangereux, purgeant des peines pour leur implication dans des raids meurtriers de vol de bétail dans cette région troublée de Karamoja, frontalière du Kenya et du Soudan du Sud.
Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a démis de ses fonctions le ministre des Finances, Salvator Garang Mamiordit, dans un contexte de forte dévaluation de la devise nationale. Il a été immédiatement remplacé par Atsian Ding Atsian. Salva Kiir a également ordonné le renvoi du chef du trésor public et celui du directeur de la compagnie nationale pétrolière Nile Pet, sans donner d'explication. Les obsèques de l'infatigable défenseur de Nelson Mandela, l'avocat George Bizos, décédé la semaine dernière à l'âge de 92 ans, ont eu lieu aujourd'hui lors d'une cérémonie solennelle devant un public réduit, Covid oblige, mais aussi de nombreux Sud-Africains devant leur télévision. Rares sont ceux qui sont connus par leur seul prénom, pas seulement de leur cercle intime, mais bien au-delà, dans ce pays tout entier, a résumé le président sud-africain Cyril Ramaphosa, saluant le départ de cette figure historique. En Libye, le chef du gouvernement d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, se dit prêt à quitter ses fonctions avant fin octobre pour céder la place à un nouvel exécutif issu de pourparlers interlibyens visant à parvenir à une issue politique à la crise. Il l'a indiqué hier lors d'une brève allocution télévisée. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est plongée dans le chaos politique où deux autorités se disputent le pouvoir. Le GNA, basé à Tripoli, est reconnu par l'ONU et un pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar qui règne sur l'Est et une partie du Sud.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouvelle tension entre la Chine et les États-Unis. Keith Krack, un sous-secrétaire d'État du département d'État, est arrivé cet après-midi à Taïwan. Cette visite provoque la colère de Pékin, qui accuse Washington d'encourager ainsi l'indépendance de l'île. Claire Morin-Gibourg.
Cette visite est la seconde en un mois d'un haut responsable américain à Taïwan, ce qui ne s'était pas produit depuis 40 ans. Selon la diplomatie américaine, Keith Krach est venu pour participer samedi à une cérémonie d'hommage au président Lee Teng-hui, décédé fin juillet. Pékin n'a pas caché sa colère. Cette visite va encourager les partisans de l'indépendance de Taïwan dans leur arrogance et leur insolence, selon les mots de Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Pékin condamne tout geste de nature à donner une légitimité au gouvernement de l'île, que la Chine considère comme une province rebelle, appelée à rentrer dans son giron. Ce voyage intervient dans un contexte de tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a précisé que M. Krach discutera aussi des moyens de renforcer la coopération économique bilatérale.
La société américaine de biotechnologie Moderna, l'une des deux, a mené en ce moment un essai clinique de phase 3 aux États-Unis pour un vaccin expérimental contre la maladie Covid-19, a publié ce jeudi le protocole complet de l'essai, première à répondre ainsi aux appels pour plus de transparence. Le président Donald Trump a promis d'avoir un premier vaccin autorisé d'ici octobre. Ses détracteurs ont évoqué d'éventuelles pressions sur l'agence des médicaments qui devra prendre la décision. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Un résumé des nouvelles économiques en Afrique, la Minute Éco avec Nanit Talami.
La société canadienne Hydroma compte produire à grande échelle de l'électricité à partir d'hydrogène naturel au Mali et au Sénégal avec l'appui de partenaires européens. À en croire l'agence Ecofine, le passage à une échelle industrielle intervient après 8 ans de phase expérimentale à Bourakébougou, une localité située à 60 km de Bamako. Pour cela, Hydroma construit déjà des champs de panneaux solaires photovoltaïques au Mali et au Sénégal. L'économie du Ghana, affectée par le Covid-19, s'est contractée de 3,2% au deuxième trimestre, une première depuis 1983. L'an dernier, à la même période, la croissance était de 5,7%. Le confinement a paralysé les entreprises et affecté leur chiffre d'affaires. Même après la levée des restrictions, de nombreuses entreprises de divers secteurs ont gardé porte close, a expliqué le Service national des statistiques. Pour terminer, ici aux États-Unis, les nouvelles demandes d'indemnité de chômage ont baissé légèrement à 860 000 contre 884 000 la semaine dernière, a déclaré le ministère du Travail, qui estime que ce chiffre reste plus élevé que les prévisions. Par ailleurs, la récession de l'économie américaine devrait être moins brutale que prévu, mais le rebond sera moins fort au cours des années à venir, d'après la Banque centrale américaine. Le PIB devrait reculer de 3,7% cette année, alors qu'en juin, on estimait une chute de 6,5%.
Et maintenant, tour d'horizon de l'actualité sportive avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le Sénégal est toujours en tête du classement FIFA Zone Afrique. La FIFA a publié son premier classement des nations pour la saison 2020-2021, avec la Belgique toujours leader au niveau mondial. Au niveau africain, les Lions de la Teranga sont toujours premiers devant la Tunisie, qui gagne une place au niveau mondial, 26e. Le Nigeria a aussi fait un bond en avant avec deux places de gagner, ce qui lui permet d'intégrer le top 30 qui compte désormais trois représentants africains. Sur le plan mondial, le Portugal s'est hissé à la 5e place aux dépens de l'Uruguay dans ce classement toujours dominé par le trio Belgique-France-Brésil. Le prochain classement sera publié en octobre et cette fois-ci, il pourrait y avoir des mouvements avec les matchs amicaux en vue pour les sélections africaines lors des prochaines journées FIFA prévues du 5 au 13 octobre. Transfert, un accord a été trouvé pour le transfert du milieu de terrain du Bayern Munich. Thiago Alcantara vers Liverpool a annoncé le patron du club bavarois Karl-Heinz Rummenigge. Liverpool devrait débourser 22 millions d'euros hors bonus pour s'attacher les services de l'international espagnol. Et puis, le transfert de l'attaquant international gallois du Real Madrid, Gareth Bale, 31 ans, à son club d'origine Tottenham, sera scellé dans la semaine, a annoncé l'agent du joueur. Le Real Madrid et Tottenham sont en train de peaufiner les derniers détails de cette opération, qui doit voir Bale revenir dans le club qu'il avait quitté en 2013 pour l'Espagne en échange de 100 millions d'euros, soit le transfert le plus cher au monde à l'époque. L'impact de la pandémie au menu du 70e congrès de la FIFA, cette édition 2020 aurait dû se tenir le 5 juin à Addis Abeba, mais à cause du nouveau coronavirus, elle se tient en visioconférence depuis le siège de Zurich. Sur les comptes révisés ainsi que sur le soutien à la communauté du football dans cette crise sans précédent, annonce l'instance. La FIFA a dévoilé fin juin un fonds d'urgence doté de 1,5 milliard de dollars. Chaque fédération pourra recevoir 1 million de dollars et 500 000 dollars supplémentaires pour le football féminin, tandis que les confédérations se verront allouer 2 millions de dollars. L'organisation prévoit aussi des prêts sans intérêt compris entre 500 000 et 5 millions de dollars. Les confédérations pourront recevoir un prêt de 4 millions de dollars. Plus de 150 associations membres ont déjà sollicité cette aide, a recensé Ole Rehn, promettant de strict contrôle de l'emploi de ces fonds.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci de votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous. Nous passons maintenant à la tranche magazine. Le Cameroun a déployé des troupes pour empêcher les partisans de l'opposition de manifester contre le président Paul Biya. L'opposition et les groupes de défense des droits humains accusent le chef de l'État au pouvoir depuis 38 ans de violation des droits humains et pour le conflit séparatiste qui dure depuis 4 ans dans les régions anglophones. Les autorités se disent déterminées à arrêter quiconque tentera de manifester. Depuis Yaoundé, le reportage de Moki Edwin Kinzeka, le récit de Lionel Gaïma.
Les partisans de l'opposition affirment qu'au moins 12 de leurs membres sont détenus depuis vendredi par ceux qui semblent être des militaires camerounais. Christophe Mkemtche, 27 ans, raconte que 8 conducteurs de taxi-moto de la ville de Douala ont été arrêtés et n'ont pas été revus depuis.
On les a kidnappés parce qu'ils étaient à la presse. Ils étaient en train de lire la presse et de commenter. On les a kidnappés, on ne sait pas. Et on ne connaît pas, on n'a pas pu identifier ceux qui l'ont kidnappé. Nous demandons leur libération. Parce que c'est les pères de famille, ils ont les femmes et les enfants. Ils n'ont pas nourri. Libérer ces gars, ils n'ont rien fait. Ils ne méritent pas la prison.
Les dirigeants de l'opposition affirment que ces détentions visent à contrecarrer les manifestations contre les premières élections régionales du pays. Le président Paul Biya a annoncé à la fin du mois d'août que ces élections auront lieu le 6 décembre. L'opposant Maurice Kamto, chef du gouvernement pour la Renaissance du Cameroun, a promis de perturber le scrutin et a appelé à des manifestations. Kamto, qui dit que Biya lui a volé sa victoire à la présidentielle de 2018, et que le Cameroun devrait d'abord résoudre le conflit séparatiste.
Notre combat contre la dictature se dirige vers sa phase critique. Malgré la nature essentielle pacifique de notre lutte pour la liberté et le développement de notre pays, le régime recourt de nouveau à la terreur et à la barbarie judiciaire. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous voulons sortir de la dictature.
Les autorités n'ont nié ni confirmé une détention militaire des partisans de l'opposition. Mais le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, avait lancé une sévère mise en garde à tous ceux qui voudront tenter de troubler l'ordre public.
Je vais lancer un avertissement sévère aux politiciens sans scrupules à la recherche d'une popularité bon marché avec un agenda caché qu'ils devront faire face à la loi en cas de désordre public. Les autorités administratives ont été chargées de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir la loi et l'ordre.
Le ministre n'a pas voulu dire combien de soldats ont été déployés, mais les partisans de l'opposition et les habitants disent que leur présence est perceptible dans les grandes villes. Le gouvernement a interdit les rassemblements publics des membres de partis d'opposition dans la plupart de villes et villages du pays. Néanmoins, Kamto a rencontré ce mois-ci des partisans dans le cadre de ce qu'il appelle des plans pour forcer Biya à quitter le pouvoir.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Nigeria, la Cour suprême a confirmé à la fin du mois d'août le droit des filles d'hériter des biens de leur père. Cette décision vient ébranler une tradition bien ancrée dans plusieurs groupes ethniques, selon laquelle l'héritage est réservé aux hommes. Les militants des droits humains saluent une avancée pour l'égalité entre les sexes, mais d'autres estiment que la Cour suprême sape les traditions et les coutumes. D'Abuja, le reportage de Timothy Obiezou, le récit est de Michel Joseph.
Nkiruka Ani est issue d'une famille polygame du sud-est du Nigeria. Sa mère est la deuxième de trois épouses et son seul frère, et héritier des biens familiaux, est décédé au début de cette année. En mars, Nkiruka Ani et sa mère ont été exclus du partage des biens de sa famille suivant la coutume Igbo interdisant aux femmes l'héritage familial. Pour survivre, Ani se débrouille comme elle peut au marché.
Je crois que nous sommes tous des humains. Tout ce qu'ils donnent aux hommes, ils devraient le donner aussi aux femmes. Nous sommes égaux. mais je ne connais pas leur propre logique. Peut-être que les femmes ne sont pas. Je ne comprends pas.
La pratique séculaire qui déshérite les femmes est basée sur l'idée qu'une fille se mariera un jour et quittera la maison pour aller vivre avec sa nouvelle famille. Au fil des ans, de nombreuses femmes, comme Annie, se sont vues refuser l'argent et la propriété dans les partages d'héritage. À la fin du mois dernier, la Cour suprême nigériane, dans un jugement historique, a annulé cette tradition et l'a qualifiée de discriminatoire et de contraire à la Constitution. Militant pour l'égalité des sexes, Solomon Bucci a célébré cette décision.
Constantly, we culture on the scale.
Nous devons constamment peser la culture à l'échelle de l'objectivité, de l'équité, de la justice et de l'égalité. Est-ce juste? Est-ce équitable? Est-ce compatissant? Nous ne voulons pas qualifier ou nous n'allons pas être fiers d'une culture qui déshumanise.
D'autres Nigérians ne sont pas de cet avis. Écoutons Elotuku Polinus, un habitant d'Abuja.
Les propriétés devraient être partagées entre les hommes parce que c'est quelque chose que nos ancêtres font depuis fort longtemps et cela marche comme ça. Et je ne pense pas que nos femmes se plaignent.
I don't think our women are complaining.
Toujours à Abuja, le président du Conseil des dirigeants traditionnels, Igbo, Ezoido Uche Egenti, se plie à la décision de la Cour suprême.
The Supreme Court has spoken.
La Cour suprême a pris la parole. Il est normal que vous et moi suivions les lois du pays. Et je me demande pourquoi c'est juste les Igbo, ce qui pourrait signifier que le Nord, le Sud ne pratiquent pas la même chose que nous.
Alors que certains prédisent une mise en œuvre difficile de la décision du tribunal, les militants pour l'égalité des sexes espèrent voir des progrès.
Au Burkina Faso, on se souvient du coup d'État du régiment de sécurité présidentielle il y a 5 ans. C'était le 16 septembre 2015. Un putsch manqué. Des populations se sont vite mobilisées pour mener la résistance. Aujourd'hui, certains estiment que beaucoup reste à faire dans le pays. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le président Blaise Compaoré est chassé du pouvoir par une révolte populaire en 2014. Le coup d'État en septembre 2015 apparaît pour certains comme la restauration du régime Compaoré.
Nous avons contribué à organiser la résistance à travers les réseaux sociaux, mais aussi à galvaniser les gens qui étaient sur le terrain.
Serge Bayala, militant du Balai Citoyen, une organisation de la société civile.
Je suis moi-même sorti et j'ai été sur le terrain. Nous avons refusé de démissionner. Nous avons accepté d'affronter une fois de plus et de façon victorieuse les putschistes de ce coup d'État qualifié d'être le plus bête du monde.
Les coups d'État sont à condamner.
Hervé Ouattara était aussi à l'époque militant de la société civile.
Nous sommes malheureusement en face des dirigeants qui n'ont pas encore appris de l'histoire récente de leur pays, qui n'ont pas appris effectivement que les populations sont dans une dynamique aujourd'hui d'autodétermination. Ces dirigeants, pour certains qui aspirent au troisième mandat, pour d'autres qui prennent en otage leur peuple et qui bâillonnent, sont ceux-là aujourd'hui qui favorisent, j'allais dire, les coups d'État. Et tant que ces dirigeants seront toujours au pouvoir, et avec ce genre de manigances, ce genre de comportement, il faut dire que nous ne sommes pas prêts de finir le coup d'État.
5 ans après, les dirigeants actuels ont encore beaucoup de pain sur la planche. Osibi Johan est membre du Balai Citoyen.
On n'est pas tout à fait satisfait des manquements. En matière de lutte contre la corruption, je ne pense pas qu'on ait évolué. Voilà, et compte tenu, chaque fois la presse nous révèle des scandales de corruption. En matière de leadership, on ne voit pas mieux. En sortant dans la rue, c'est contre le gaspillage, la corruption. On a voulu avoir un nouveau visage. Et c'est pas ce visage-là qu'on voit.
Mais du côté du parti au pouvoir, on pense qu'il y a eu des acquis. Bienvenue Bakiono est député du MPP, parti au pouvoir.
C'est vrai que le Burkina Faso connaît des difficultés, notamment au niveau sécuritaire. Il y a toujours des besoins non comblés au niveau de la population. Mais quand cela ne tienne, c'est la marche de toute nation. Il y a 5 ans, le principal défi, la principale contradiction du moment, c'était l'approfondissement de la démocratie, l'approfondissement de l'état de droit. Et cette contradiction a été relevée avec brio par le peuple burkinabé.
Pour le coup d'état de septembre 2015, il y avait 84 accusés, 40 témoins et au moins 300 parties civiles. Le verdict, prononcé 4 ans après, le 2 septembre 2019, les généraux Gilbert Diengéré et Djibril Bassolé ont écopé respectivement de 20 ans et de 10 ans de prison ferme. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Le président Donald Trump a contredit une déclaration du directeur des centres de prévention et de contrôle des maladies sur le calendrier de son administration pour fournir aux Américains des vaccins contre le coronavirus. Son adversaire à la présidentielle, Joe Biden, a présenté ses plans de vaccination s'il remportait les élections de novembre. Un reportage de Patsy Vidakusrawa, relaté par Nathalie Barge.
Un vaccin contre le coronavirus sera disponible en quantité limitée entre novembre et décembre, a déclaré mercredi Robert Redfield, directeur des centres de prévention et de contrôle des maladies, précisant qu'il sera largement disponible bien plus tard.
I think we're probably looking at...
Nous l'envisageons probablement pour la fin du deuxième trimestre.
Quelques heures plus tard, le président Donald Trump a contredit son expert.
Je pense qu'il a fait une erreur en disant cela. Ce sont des informations incorrectes. Je l'ai appelé et il ne m'a pas dit cela. Je pense qu'il a compris le message. Peut-être qu'il a été mal exprimé par confusion. Nous sommes prêts à commencer dès que le vaccin sera annoncé et il pourrait l'être en octobre.
Monsieur Trump a également contredit la déclaration du directeur des CDC selon laquelle les masques se sont avérés efficaces et pourraient offrir plus de protection qu'un vaccin. Lors d'une réunion publique mardi, il a déclaré que le coronavirus disparaîtrait sans vaccin, affirmant que la population finirait par s'immuniser. William Schaffner est professeur de maladies infectieuses à l'université Vanderbilt.
La seule façon d'obtenir l'immunité collective sans vaccin est que le virus le fasse tout seul. Il doit infecter un grand nombre de personnes et les rendre malades au point de se retrouver à l'hôpital. Et nous aurions beaucoup de décès de personnes de tous âges, d'enfants, des jeunes adultes et de nombreuses personnes âgées et atteintes de maladies chroniques. Nous ne voulons certainement pas cela.
Le candidat démocrate à la présidence, Joe Biden, a exposé mercredi son plan pour développer et distribuer un vaccin s'il est élu.
Il comprend un calendrier détaillé sur la période de vaccination, des directives claires sur les populations prioritaires, un mécanisme spécifique pour expédier et stocker le vaccin à des températures appropriées. Deux de ces vaccins, s'ils deviennent effectifs, doivent être stockés et expédiés à moins 70 degrés. La répartition des responsabilités à chaque niveau de gouvernement doit être précise et je fournirai le leadership nécessaire pour mener à bien ce plan.
Des scientifiques du monde entier tentent de développer un vaccin contre le Covid-19. Plus de 170 vaccins potentiels sont suivis par l'OMS. Ils doivent respecter des normes très élevées car ils sont administrés à des millions de personnes.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, Israël normalise ses relations avec deux pays arabes, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, sous l'égide de Washington. Jusque-là, l'Égypte et la Jordanie étaient les seuls pays arabes à entretenir des relations diplomatiques avec l'État hébreu, la question palestinienne étant le principal obstacle. Que signifient ces derniers accords de normalisation pour la région et les États-Unis? Qu'en est-il de l'Afrique quant au conflit israélo-palestinien? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. Merci à l'équipe de la production pour la mise en onde. L'info continue sur notre antenne et en ligne sur voafrique.com. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide au micro. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. À très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.